Courte esquisse du livre d'Ésaïe. Il y a deux catégories de prophètes. Les premiers, parmi lesquels se place Ésaïe, prophétisent lorsqu'Israël est encore reconnu de Dieu comme son peuple. Les seconds, quand il n'est plus reconnu. L'Assyrien est le grand ennemi mentionné dans la première catégorie, tandis que Babylone et les bêtes occupent la seconde. Voyez par exemple Daniel et Zacharie. Dans cette seconde catégorie, on ne trouve plus qu'Israël soit appelé le peuple de Dieu, sinon prophétiquement, quand il s'agit du millénium. Mais, malgré cela, les prophètes continuent à être suscités pour ramener le peuple, lorsqu'il s'est éloigné de l'Éternel. Le livre d'Ésaïe se divise en deux grandes parties très distinctes l'une de l'autre. La première, des chapitres 1 à 35, qui précède l'histoire d'Ézéchias, chapitres 36 à 39, la seconde, chapitres 40 à 66, qui la suit. Ces deux parties diffèrent entièrement de caractère. Dans la première, nous trouvons une histoire étendue des gentils, jugés prochainement par l'avènement de Nebuchadnezzar et, dans l'avenir, par un jugement beaucoup plus terrible. La seconde est une longue discussion avec Israël au sujet de ses péchés, avec l'affirmation que, malgré tout, la bonté de l'Éternel les recevra finalement. Ces deux grandes divisions présentent chacune des subdivisions que nous allons indiquer à leur place. Première partie, chapitre 1 à 35. Chapitre 1 à 12. Les chapitres 1 à 4 sont une préface dans laquelle l'Éternel reproche à Israël de l'avoir oublié, mais le chapitre 1 contient en même temps une promesse de délivrance. Les rebelles et les pécheurs seront froissés tous ensemble, mais il y aura un résidu. Au chapitre 2, Dieu exaltera la maison de Jacob et Jérusalem au dernier jour. Les peuples y monteront. Le jugement sera le moyen d'exécuter cette promesse. Le pays est rempli d'argent, d'or, d'idoles. Dieu jugera tout cela. Il commencera par son propre peuple, preuve qu'il jugera les nations. Le chapitre 3 entre dans le détail de toute la vanité, du luxe, des iniquités qui amènent le jugement. Le chapitre 4 introduit Christ et la bénédiction finale. Chapitres 5 et 6. Nous trouvons ici deux principes selon lesquels Dieu juge son peuple, principes aussi vrais pour les gentils et pour l'Église extérieure, ou chrétienté, que pour Israël, auquel il s'applique directement. Le chapitre 5 nous présente d'abord ce que Dieu avait établi lui-même, ce qu'il avait fait pour Israël, sa vigne. Le chapitre 6 nous révèle un autre principe de jugement. Ce n'est plus « Est-on déchu de la première bénédiction ?» mais « Est-on prêt à rencontrer l'Éternel, le Seigneur ?» L'Éternel des armées se manifeste aux yeux d'Ésaïe et le prophète dit « Malheur à moi !» Ce Jéhovah était Christ lui-même. Un des séraphins purifie la bouche du prophète qui dit alors « Me voici !» puis prononce le jugement sur Israël. Il est dit au psaume 74, verset 9 « Il n'y a personne avec nous qui sache jusque à quand. » Personne pour compter sur la fidélité de Dieu envers son peuple. Le prophète dit ici « Jusque à quand, Seigneur ?» Verset 11. Il est la bouche de l'Éternel pour prononcer le jugement, mais il représente en même temps la foi qui compte sur sa fidélité. Dieu lui répond en lui annonçant qu'il y aura un résidu. Chapitre 7 à 9. Au chapitre 7, il est question de la venue de Christ. Dans les jours d'Akaz, le roi de Syrie et le roi d'Israël, fils de Remalia, montent contre Jérusalem. Le peuple s'en émeut, et l'Éternel leur enseigne ce qui allait arriver. Il annonce l'Assyrien qui va tout détruire, aussi bien la Syrie que les 10 tribus. Ésaïe sort au-devant d'Akaz avec Shéar-Jachub, un résidu reviendra, encourage le peuple au sujet de la Syrie et d'Éphraïm, et, en même temps, ordonne à Akaz de demander un signe. Sur le refus de ce dernier, le prophète donne comme signe la Vierge enfantant un fils. C'est la réponse de Dieu. La prophétie déclare que l'Assyrien viendra détruire Israël, mais elle annonce en même temps la présence du Christ, preuve positive qu'Israël sera restauré. Emmanuel, Dieu avec nous, sera là, tandis que l'Assyrien renversera tout dans le pays. Tel est le sujet du chapitre 8. Une fois le Christ introduit, c'est lui-même qui est la ressource. Les versets 11 à 15 parlent de sa première venue. Le jugement vient sur Israël, mais l'Éternel sera pour sanctuaire. L'Éternel sera pour pierre d'achoppement. Alors, versets 17 et 18, il ajoute « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, tandis que l'Éternel cache sa face de la maison de Jacob. » Il en est de même aujourd'hui. Hébreux 2. Ensuite, la misère d'Israël nous est présentée, mais Christ reste toujours devant l'œil de la foi. Au chapitre 9, versets 1 à 7, le prophète prend pour point de départ le temps où le Christ sera présent dans le pays pour arriver au temps de son retour. Il introduit la délivrance des derniers jours et encourage le résidu. Ce dernier avait le Christ, versets 1 et 2, mais il l'aura à la fin, rétablissant le peuple dans la jouissance de toutes les promesses. Chapitre 9, versets 8 à 12. Le prophète revient aux circonstances d'Israël, à son orgueil qui résiste au jugement de Dieu. Il mentionne de nouveau Retsin, comme au chapitre 7, et reprend l'histoire générale de ce temps-là. Les jugements se succèdent, et, malgré tout cela, il ne fera point cesser sa colère, mais sa main sera encore étendue. Versets 12, 17, 21, chapitre 10, verset 4. Au chapitre 10, les versets 5 à 34 vont jusqu'au jugement du dernier jour. Il commence par un appel à l'Assyrien. Ah, l'Assyrie! Celui-ci se vante de tout ce qu'il a fait, mais le Seigneur dit « Encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. » Verset 25. Ce sera la fin de l'Assyrien, mais pour le peuple, ce sera la délivrance. Verset 27. La destruction de Sankhérib et au commencement de l'histoire du peuple, celle des Égyptiens, ont offert quelque chose d'analogue. Note 1. La consomption, chapitre 28, verset 22, est une expression remarquable que l'on rencontre aussi en Daniel 9, verset 27 et en Sophonie 1, verset 18. Ce mot signifie le dernier jugement de Dieu pour introduire le règne de Christ, le temps où la justice règnera. Fin de la note. Dans les derniers versets, tout est consommé. L'Assyrien, littéralement Sankhérib, est détruit. Versets 28 à 32. Le chapitre 11 nous présente toutes les bénédictions qui découlent de l'exécution du jugement. C'est le bonheur d'Israël sous le règne de Christ. Au chapitre 12, Israël chante la délivrance. Ici se termine la première subdivision de notre prophète. Je la résume. Après les quatre premiers chapitres, Dieu parle de l'iniquité d'Israël, sa vigne, chapitre 5. Israël sera dévasté, un petit résidu sauvé, chapitre 6. Puis Christ est introduit. L'Assyrien entre en scène. Le peuple est rejeté. Christ revient en puissance et en jugement jusqu'à ce que la destruction de l'Assyrien mette fin à l'indignation, chapitre 7 à 10. Enfin, la joie d'Israël est proclamée, chapitres 11 et 12. Jusqu'ici, nous avons eu l'histoire d'Israël. Chapitres 13 à 27. Cette section nous présente le jugement des gentils. Au chapitre 13, jusqu'au verset 27 du chapitre 14, c'est la charge de Babylone. Chapitre 14, versets 28 à 32, la charge de la Philistie. Au chapitre 15 et 16, jugement de Moab. Au chapitre 17, celui de Damas. Au verset 12 à 14, le jugement de l'assemblée de toutes les nations, à la fin, accompagne celui de Damas et aussi d'Édom. Le chapitre 18 est très remarquable. Israël se trouve au milieu de toutes ces nations qui sont l'objet du jugement. Alors entre en scène le pays qui se trouve au-delà de l'Euphrate et du Nil, les fleuves de Cush, c'est-à-dire une nation qui habite plus loin que l'Égypte et la Syrie, ces deux contrées ennemies d'Israël. Cette nation ramène le peuple juif dans sa terre. Il a l'air de pousser des rejetons. Il rentre en apparence en possession de la Palestine, mais tout à coup, le jugement tombe sur lui. Et ces Juifs revenus chez eux sont tous ensemble abandonnés aux gentils qui viennent les butiner. Après l'exécution de ce jugement, Israël devient le peuple de l'Éternel. Chapitre 19 et 20. Jugement de l'Égypte. Chapitre 21. Un caractère spécial de Babylone, jugé. Chapitre 22. Charge de Jérusalem, non pas du peuple juif, quand l'Antichrist en aura pris possession. Chapitre 23. Charge de Tyr. Chapitre 24. La terre d'Israël est complètement bouleversée. Toutes les nations s'assemblent contre Jérusalem, et Dieu les juge là. Mais alors la bénédiction est introduite. Au verset 21, il visite l'armée des démons, en haut, les rois sur la terre, et, au verset 23, nous présente la conséquence de ce jugement. Le chapitre 25 célèbre, comme au chapitre 11 et 12, les effets du règne de Christ mentionnés au verset 23 du chapitre précédent. Nous trouvons ici la bénédiction des Juifs, des gentils et la résurrection des saints, versets 6 à 8. Les nations sont dans la lumière, les saints ressuscitent, l'opprobre des Juifs est ôté. Chapitre 26. Chant de délivrance. Chapitre 27. Destruction de Satan. Chapitre 28 à 35. L'Assyrien arrive depuis le nord. Au chapitre 28, il traverse Éphraïm, le pays des 10 tribus, puis au chapitre 29, Jérusalem, sous le nom d'Ariel, et, au chapitre 30 et 31, châtie le peuple qui s'en est allé en Égypte. Dans chacun de ces cas, le Seigneur intervient. Chapitre 32. Dieu va établir une dispensation toute nouvelle sur la terre. Le règne de Christ. Chapitre 33. L'Assyrien est frappé. Chapitre 34. L'indignation de l'Éternel est sur toutes les nations. Détail de ce jugement. Chapitre 35. La bénédiction d'Israël. C'est ainsi que se termine la première partie d'Ésaïe. Chapitre 36 à 39. Histoire d'Ézéchias. Nous trouvons dans ces chapitres deux principes, la résurrection et la délivrance des mains de l'Assyrien. C'est un Christ ressuscité qui effectue la délivrance. La seconde partie, chapitre 40 à 66. Chapitre 40 à 48. Controverse de Jéhovah avec les Juifs, après l'éloignement des 10 tribus, à l'égard de leur idolâtrie dont Babylone est la source. Au chapitre 40, il console son peuple, et la controverse se termine au chapitre 48, par ces mots « Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. » Il y aura un résidu, chapitre 48, versets 20 et 21. Mais s'il y a des méchants en Israël, ils seront punis comme les autres hommes. Avant l'exécution du jugement sur l'idolâtrie, le Christ est introduit. Fin du chapitre 44. Chapitre 49 à 57. Controverse de Dieu avec les Juifs à l'égard du rejet de son Fils. Chapitre 49. L'Éternel a pris Israël comme sujet de son témoignage. Versets 1 à 3. Et moi, dit Christ, verset 4, les Juifs n'ont point voulu de moi. Il prend la place d'Israël. Israël était celui en qui l'Éternel voulait se glorifier, mais il rejette le Christ. Alors ce dernier le remplace et sera glorifié. Chapitre 50. Le divorce d'Israël, fruit de ce rejet du Christ. Jéhovah était venu. Il n'avait pas cessé d'être l'Éternel. Quand même il était devenu un pauvre homme humble pour faire la volonté de Dieu. Chapitre 51. Il reprend ses voies envers Israël. La progression dans ce chapitre est bien remarquable. Au verset 1, nous trouvons ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel. C'est le résidu. Au verset 4, il y a progrès. Dieu les appelle de nouveau son peuple. Au verset 7, ils ne poursuivent plus la justice, mais ils la connaissent. Au verset 9, Israël dit « Réveille-toi, bras de l'Éternel », confessant ainsi qu'il est au dernier degré de l'abaissement. Au verset 17, l'Éternel prend la cause d'Israël en main. « C'est toi, dit-il, toi, Jérusalem, qui dois te réveiller. » Chapitre 52. Un troisième « Réveille-toi ». Nous avons ainsi dans ces deux chapitres le progrès d'un résidu, tout petit à l'origine, jusqu'à la gloire millénaire de Sion. Au verset 13 de ce chapitre, nous trouvons le Christ. Au chapitre 53 et 54, les Juifs reconnaissent qu'ils l'ont méprisé. C'est leur repentance que nous, chrétiens, avons anticipée. Alors Christ jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Chapitre 55 à 57. Christ ayant été présenté dans son rejet et dans ses souffrances, nous trouvons ici un appel, adressé à tous, les nations comprises, à croire en lui. Cette sixième partie se termine par ces mots « Il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. » Chapitre 58 à 66. Chapitre 58 à 60. Bénédiction d'Israël au dernier jour, accompagnée du jugement du mal au milieu de lui, mais avec la promesse d'une entière délivrance. Au chapitre 59 et 60, nous trouvons le développement de la bénédiction terrestre. Quand il n'y a personne pour délivrer, lui se lève en jugement, chapitre 59, verset 17, mais pour la bénédiction d'Israël. Chapitre 61 à 63, verset 6. Présentation complète et développée de Christ. Le chapitre 61 commence avec son humiliation, puis omet toute la période de l'Église pour arriver à sa venue en gloire à la fin. Au chapitre 62, Dieu se réjouit en bénissant Israël. Au chapitre 63, versets 1 à 6, jugement spécial des méchants dans la terre d'Idumée. Ce jugement est la délivrance du peuple. Du chapitre 63, verset 7 au chapitre 64. Prière du prophète ou du résidu pour que le Seigneur intervienne de cette manière. Chapitre 65. Dieu répond en parlant de l'évangile porté aux nations ensuite du refus d'Israël de le recevoir. Le verset 13 distingue très nettement un résidu qui reconnaît l'Éternel. Ses serviteurs entrent dans la pleine bénédiction millénaire. Le mot « serviteur » est une clé pour la seconde partie d'Ésaïe. Israël a été établi pour être serviteur de Dieu. Christ remplace Israël sous ce titre. Enfin, le résidu devient les serviteurs. Le chapitre 66 continue à parler du résidu. C'est en vue de lui que le terrible jugement de la fin tombe sur les Juifs infidèles et sur toutes les nations idolâtres. Les fidèles d'entre les Juifs seront ramenés, tandis que les rebelles seront dans la géhenne, en abomination perpétuelle.